peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors avec aujourd'hui, autour de la table, évidemment Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Jean-Claude. Hein.
Bonjour à tous.
Et Karine.
Bonjour à tous.
Et le messager du cheval, surtout, a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Henri Albert.
Et notre invité d'honneur.
Oui, et bien bonjour à tous.
Vous êtes l'actuel directeur du Haras de Rodez.
Oui, depuis le 10 octobre, j'ai pris mes fonctions au Haras de Rodez.
Au Haras de Rodez. Alors, toute l'équipe en forme pour une chevauchée radiophonique de 25 minutes.
Comme d'habitude.
Allez. Pretzi parats.
Pretzi parats, c'est la devise des comtes de Toulouse.
Voilà. Alors, nous avons la chance à Rodez de disposer d'un haras national dans lequel, Jean-Yves, tu as toi-même enseigné il y a quelques années.
Alors, c'était tout le début de l'équitation dans le département de l'Aveyron. Hein. Je suis resté le seul moniteur pendant très 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 longtemps qui avait pour mes missions, envoyé pour le conseil général, d'apprendre l'équitation un peu partout.
Voilà. Alors, pour éclairer un petit peu nos auditeurs, on va peut-être faire un rapide historique, enfin les grandes lignes des haras en France. Donc c'est sous Louis XIII en fait, donc le fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, dont le règne se situe dans la première moitié du XVIIe siècle, que pour la première fois la nécessité de créer des haras d'État se fait sentir. Des haras d'État qui se... Voilà, c'est important. L'abolition de la féodalité et l'avènement sous le règne de Louis XIV de la monarchie absolue avaient en effet porté un coup assez rude à l'élevage du cheval, qui jusque-là avait été assuré par les grands nobles pour qui l'animal évidemment représentait une nécessité de premier ordre. Sur l'ordre impératif du roi Soleil, donc ces grands nobles doivent quitter leur fief pour venir vivre à la cour, parce qu'effectivement jeune Louis XIV avait subi la fronde, donc avait même failli être plus ou moins tué, et la fronde, c'était la révolte des grands nobles, et évidemment, il voulait avoir tous ces grands nobles sous la main à Versailles. Donc, il les endettait, hein. Donc les nobles leur devaient tout, sinon ils perdaient leurs terres, leurs châteaux, tout ça, et donc, comme ça, il les muselait un peu.
Mais déjà, Louis XIII avait commencé à mener quelques travaux, voilà. Parce que Louis XIII est un cavalier remarquable, sous la plume de Puvignel, et avec un cheval barbe, puisque il y avait un édit du roi avec Denis Colomb de Donnant, qui disait qu'il fallait croiser les chevaux indigènes avec des chevaux barbes pour avoir de bons chevaux d'école.
Alors justement, donc ces grands nobles qui sont à Versailles, en fait, finissent par se désintéresser complètement de l'élevage des chevaux qu'ils laissent aux mains de leurs intendants, donc ça ne les intéresse plus. Et c'est dans ces conditions et devant cette carence qu'en 1639 paraît le premier édit royal créant les haras d'État. Mais ce n'est que 26 ans plus tard, le 17 octobre 1665, que Colbert, le grand ministre de Louis XIV, par un arrêt du Conseil, donne à l'administration des haras royaux un statut et une organisation qu'il veut efficace. Alors, dans un premier temps, les étalons sont répartis chez différents éleveurs. Ceux-ci, appelés gardes-étalons, ont pour mission d'entretenir et de faire saillir les chevaux. En échange, ils bénéficient de privilèges et jouissent d'une immunité considérable. Et aux étalons royaux s'ajoutent également des étalons qu'on appellerait privés maintenant, dans la mesure où ces derniers auront été approuvés par l'administration des haras. Il faut qu'ils soient approuvés. En revanche, l'utilisation d'étalons non approuvés est strictement interdite, punie d'amende et peut même aller jusqu'à la confiscation de l'animal. Donc c'est quand même déjà quelque chose d'extrêmement cohérent et d'extrêmement coercitif d'une certaine façon. Alors jusqu'au début du XVIIIe siècle, l'administration des haras n'a pas encore de doctrine d'élevage véritablement bien établie. C'est un peu une période de tâtonnement assez empirique. Et les haras ont recours à des étalons d'origine les plus diverses. Alors là, c'est vraiment un petit peu la planète cheval qui se retrouve comme ça dans un même lieu. On y trouve des chevaux haras, barbes, espagnols, napolitains, et un peu plus tard, des danois et des chevaux mecklembourgeois. Donc vraiment, il y a un petit peu de tout. Et enfin, de 1775 à 1790, le prince de Lambesc, grand écuyer de Louis XVI, donc on sait Louis XVI, fait importer des chevaux anglais qui contribuent à la formation de la race anglo-normande, qui est en fait, un peu, on pourrait dire, dites-moi si je me trompe, l'ancêtre de ce qu'on appelle maintenant le cheval de selle français, grosso modo.
Oui, on va dire ça, oui.
On va dire ça pour aller vite. Hein.
Oui.
Je crois que ça doit être quand même plus complexe. Alors, l'évolution reste lente, malgré la création par Colbert du premier haras royal, le haras du pin, puisque ça a été le premier, c'est le haras du pin. Et une des raisons principales de la lenteur de cette évolution est le peu d'intérêt que les éleveurs privés ont pour la production de chevaux destinés à la remonte militaire. Et un mémoire du Conseil royal de 1717 s'alarme, et je vais en citer un extrait, il dit « On s'est vu réduit à traiter l'argent à la main avec des marchands pour tous les besoins de la cavalerie, de l'artillerie et même de la maison du roi. » Donc ça veut dire que bon, ben, il faut aller chercher les maquignons, discuter après, se faire un petit peu rouler dans la farine, enfin bon, c'est pas formidable. Et le rapport précise pour expliquer cette difficulté à trouver les chevaux, et ça c'est important, l'élevage du cheval de selle, je recite leur rapport, donne bien moins de profit aux éleveurs que l'élevage des bêtes à cornes. C'est-à-dire que bon, les éleveurs disent, vous êtes bien gentils avec vos chevaux, on gagne pas assez d'argent dessus, on préfère faire des bœufs, des, ouais, je sais pas moi.
Et pourtant, un bon cheval avait beaucoup de valeur, hein. Un bon cheval, ça valait deux paires de bœufs.
Deux paires de bœufs. Mais enfin, bon, là, les éleveurs étaient pas, trouvaient que c'était pas, économiquement, c'était pas formidable. Et donc, c'est effectivement difficile d'être plus clair, hein. Alors, la Révolution française commence par supprimer l'institution des haras, mais les conséquences de cette disparition ne tardent pas à se faire sentir. Évidemment, l'institution est remise sur pied ensuite. Elle reste néanmoins fragile et arrive à grand-peine à combler les pertes effroyables dues aux guerres menées par la Première République. Il faut en effet se souvenir que sur le champ de bataille, je crois qu'on l'avait déjà dit, Jean-Yves, l'espérance de vie d'un cheval est d'un peu moins d'une journée. Bon, on sait que Murat, en chargeant, a 7 chevaux qui sont tués sous lui le même jour, en quelques heures. Alors cette ponction sur ce vif de l'élevage français devenait excessif au risque de les tarir. Malgré tout, l'édifice reste instable et tout est à recréer, même si les haras réussissent le tour de force d'augmenter de façon considérable la population des chevaux en France. Et consciente de cette fragilité, la Convention, par un décret du 2 Germinal de l'an 2, ce qui correspond au 22 mars 1794, ordonne la formation de 7 haras pour héberger des étalons et des poulinières. 3 seulement fonctionneront, le haras du pin, donc créé 64 ans auparavant, puis supprimé, le haras de Pompadour et celui de Rosières dans le département de la Somme. Voilà. Alors c'est vrai que cette histoire de haras, c'était à la fois créé, supprimé, recréé, etc. Enfin bon, il y a eu quand même pas mal de vicissitudes pour cette belle institution. Alors certes, la Convention... Puis le directoire relance la production équine en France, mais rien de vraiment décisif n'est réalisé, quoi. Et c'est Napoléon, par un décret du 4 juillet 1806, qui rétablit pleine et entière l'administration des haras. Il ordonne la création de 6 nouveaux haras, ainsi que de 2 écoles vétérinaires. Il faut pas oublier, l'une qui est à Alfort, et dans la banlieue parisienne, et l'autre à Lyon. Et du reste, ces deux écoles fonctionnent toujours actuellement.
Toujours,
absolument. Ouais. Alors, quand l'empereur reprend en main, en 1806, la reconstitution du cheptel des haras, il opte pour le cheval de pur sang oriental, c'est choisi, et envoie de nombreux étalons de cette race à Tarbes, d'où la fameuse structure à Tarbes de l'anglo, évidemment. Mais les guerres de Napoléon, que Napoléon va mener à travers toute l'Europe, particulièrement entre 1813 et 1815, auront pour effet de vider une seconde fois la France en quasiment tout son cheptel équin. C'est-à-dire qu'entre les guerres de la Première République et les guerres napoléoniennes, il se passe quoi ? Il se passe 15-18 ans, deux fois le cheptel équin français est quasiment anéanti. Quand Napoléon part à l'île de Sainte-Hélène, prisonnier, évidemment, tout est à reconstruire. Alors, les haras se lancent dans une série de croisements au début un peu empirique, un peu à tort et à travers, en privilégiant le pur sang anglais et le pur sang oriental, ce qu'on appelle le pur sang arabe. Et c'est ainsi qu'est créé le cheval anglo-arabe. Alors dans un premier temps, ce nouveau cheval présente pas mal de défauts, son hérédité est instable, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qui va sortir, des juments, il est souvent de trop petite taille, il est également de constitution fragile, il est peureux, il est caractériel, et il semble cumuler absolument tous les défauts du pur sang anglais, du pur sang arabe, du pur sang oriental. Alors vers 1880, consciente de cette impasse, l'administration des haras fait acheter en Syrie pour le haras de Pompadour. Alors 1880, évidemment, la France a conquis l'Algérie. Fait acheter donc en Syrie pour les haras de Pompadour des étalons orientaux de sang plus pur et parfaitement conformés tant physiquement que mentalement. Et le succès, là, pour le coup, est au rendez-vous. Les vétérinaires en charge de ces chevaux constatent en effet que le meilleur croisement est le croisement alternatif du pur sang arabe et du pur sang anglais alternatif, voilà ce qui n'avait pas été compris avant, et la race anglo-arabe est enfin fixée, et elle peut se reproduire elle-même et prend le nom de pur sang anglo-arabe, que tout le monde évidemment connaît. Alors à la même époque, les dépôts de remontée en Algérie se dotent pour la cavalerie de chevaux barbes, alors ça Jean-Yves, voilà, tu aimes bien, et de chevaux barbe arabe ou arabe barbe, comment on peut dire les deux, dont la hauteur du garrot doit être, alors là c'est bien l'armée, doit être au minimum de 1m44, pas 43, 44. Ils serviront de chevaux d'instruction dans les manèges militaires en raison de leur docilité, mais surtout de leur moindre coût. Alors c'est amusant de voir dans les traités de l'époque, des traités militaires, effectivement, le barbe sert uniquement à l'instruction des cavaliers. C'est un cheval strictement de manège. De manège, il ne va pas en manœuvre.
Et, c'est dommage, parce que c'est un cheval de guerre.
Voilà. Et alors donc, on le met là, parce que c'est quand même un cheval qui est intelligent et assez docile. Et puis surtout, ben, la grande muette fait des économies, parce que ces chevaux barbes sont beaucoup moins chers que les chevaux, les autres chevaux.
Et rustique, facile à entretenir.
Et alors, bon, on le sait, toi le premier Jean-Yves, deux siècles plus tard, ces chevaux magnifiques d'Afrique du Nord seront importés en France par bateau entier comme animaux de boucherie. Alors ça débarquait à Marseille et ça partait directement à l'écarissage. Alors on le voit bien, depuis presque 4 siècles, l'histoire des haras est une longue histoire alternativement faite de création et de suppression, et leur maintien en activité de nos jours encore reste parfois un petit peu discuté, mais justement, et ça, c'est là que je pense que ça va être, cette conversation va être intéressante, monsieur Albert en particulier, c'est effectivement devant cette espèce d'historique, je le conçois, trop rapide, on a quand même on assiste à une profonde mutation des haras en France.
Bien sûr, et puis qui s'est accélérée. Enfin, des haras, je parle de l'histoire des chevaux. Depuis 20 ans, ou je dirais 30 ans, il y a une évolution énorme. Qui aurait prévu qu'aujourd'hui, il y a autant de gens qui montent à cheval, qui utilisent le cheval pour faire du tourisme. Monsieur Bonnet parlait tout à l'heure de qu'il a été un des précurseurs, un des grands précurseurs sur l'Aveyron de l'équitation. Les haras nationaux ont ouvert leur haras pour faire de l'équitation dans les années 70, c'est pas très vieux. Et après, donc, on voit donc apparaître la disparition, donc moteur explosion a fait disparaître le cheval de trait comme animal, comme énergie.
Ah, le cheval vapeur pour Jean-Yves, c'est son cheval préféré.
Et donc, si bien que, si vous voulez, il s'est avéré qu'on a eu une transformation, on a commencé à accueillir et encourager l'équitation sur les haras. On a donc développé le tourisme et notamment également les poneys. Les premiers poneys sont arrivés comme étalons dans les années 60-80. On a encouragé le tourisme équestre, aussi Monsieur Bonnet pourra vous en parler.
Et qui est, je vous interromps une demi-seconde pour dire que c'est la première fédération, la Fédération Française de Tourisme Équestre, c'est la première fédération mondiale.
Voilà.
C'est quand même un sacré beau succès.
C'est parti des haras de Rodez.
Bien évidemment, donc voyez, est parti aussi de par là aussi quelque chose d'important qui est l'endurance équestre.
Et c'est parti de Rodez aussi également.
Voilà. Donc vous imaginez en 30 ans ce qui a pu se passer. Oui. Beaucoup de choses comme ça, vous voyez comment le nombre de centres équestres que vous avez dans le département, c'est dans la France.
Il y a un maillage extraordinaire.
Vous voyez, on est dans une autre époque qu'on n'a jamais connue. Et puis vous avez aussi deux personnes qui nous côtoient sur cette réunion aujourd'hui, qui sont les artistes équestres. L'art équestre est aussi quelque chose de nouveau, qui est né de tourisme équestre aussi, mais qui est né grâce à tout ce qui s'est passé du côté du ZES et que les haras ont décidé d'accompagner.
Et puis il y a beaucoup de choses qui ont démarré d'ici, donc Rodez et le haras de Rodez est en promotion pour tout, ne serait-ce que pour l'élevage aussi, puisque les pur sang qui ne pouvaient pas faire pur sang, non arabe, qui ne pouvaient pas s'habituer à Tarbes ou ailleurs, sont venus à Rodez, et à Rodez ils ont parfaitement bien fait, et puis les premiers étalons d'endurance sont nés ici.
Ils sont nés ici à Rodez, oui.
Bien sûr.
Jean-Claude, Karine.
J'en reste quoi de toute cette histoire? Parce que c'est quand même une grande histoire, c'est pas rien du tout, c'est une très très grande histoire.
Comme disait mon cher directeur, c'est vrai que il y a une évolution permanente dans les haras nationaux, et donc il y a une nouvelle évolution, ça n'a pas arrêté, les haras nationaux n'ont pas arrêté d'évoluer finalement. Et donc là il y a une nouvelle évolution qui se présente avec des artistes, et un autre monde qui va venir voir le jour.
Alors ouais. Je me retourne vers vous monsieur Albert, donc la structure administrative des haras, à qui appartiennent les haras Est-ce que c'est un prestataire de service? Est-ce qu'il est propriétaire de ces murs? Comment tout ça fonctionne?
Alors donc, les haras nationaux, tels que vous avez très bien décrit aujourd'hui, racontent une histoire passionnante qui évolue, comme on vient de dire, tout le temps, et qui va continuer d'évoluer, et donc était donc ces services d'État, et qui avait donc des installations à titre privé, où la plupart du temps étaient affectataires sur des domaines collectivités territoriales, ce qui est le cas à Rodez, puisque c'est le département qui est donc le propriétaire, conseil général, hein, et le conseil général, et nous sommes affectataires depuis cette époque-là.
Au niveau du matériel dans le bâtiment, comment ça marche?
Alors,
carrière,
donc le fait d'être affectataire, c'est que donc nous avons tous les, on peut faire ce qu'on veut du moment que ça remplit dans la mission d'origine, c'est-à-dire c'était la mission des haras nationaux. Donc toutes les constructions, les aménagements, c'était fait par les haras nationaux en tant que maître d'ouvrage.
Et alors, grosso modo, les spectacles équestres ou divers spectacles dans les haras, ça date de quand, en fait? Alors, on commence à voir des artistes comme ça qui viennent, qui profitent des installations des haras pour pouvoir refaire leur spectacle.
On va dire que ça a commencé. Je suis un des premiers artisans, c'est moi qui ai, à l'époque, j'étais donc à Uzès, et j'ai donc accueilli Monsieur Lucien Grus, qui y est déjà. Donc le fait de s'intéresser au spectacle équestre, ça commence dans les années 2002-2003, par là.
Oui, c'est quand même relativement récent. Une dizaine d'années, voilà, c'est ça.
Donc c'était un petit peu différent, parce que c'est une convention avec la ville d'Uzès, qui donc était le prestataire, le demandeur, le donneur d'ordre. Mais accueillir en tant que comme accueil, ça veut dire avec une convention artiste en résidence pour monter des spectacles, c'est encore plus récent que ça.
On va dire
5-6 ans, quoi.
J'utilisais les services pour mes juments des étalons d'Uzès, je me souviens, parce que j'habitais pas très loin. Et donc j'avais appris aussi que lors des dépôts, enfin les haras d'Uzès, le haras d'Uzès avait un dépôt en Corse.
Oui, bien sûr.
Parce que vous avez parlé de quand Napoléon a créé les haras nationaux, il a créé un haras par circonscription. Donc dans une circonscription, vous aviez plusieurs départements. Donc pour Rodez, c'était Aveyron, Tarn, Lot et Tarn-et-Garonne. Et donc toute la région était administrée haras. Donc Uzès, la Corse était rattachée à Uzès, mais à l'époque, je me demande s'il n'y a pas eu un bouleversement, si c'était pas rattaché à Tarn.
Alors effectivement, c'est une grosse activité dans les haras en général et dans Sud-Rodez en particulier, c'est que vous avez un laboratoire de récolte et de traitement du sperme des étalons.
Alors jusque dans les années 80, il n'y avait qu'une seule technique de faire de la reproduction, c'était la monte en main.
Oui.
Donc, et d'ailleurs, toute la réglementation des studbooks était basée sur je certifie que j'ai bien fait saillir la jument à tel étalon. Et puis, en fonction de cette signature, on faisait les papiers pour garantir que c'était ça. Tout à l'heure, vous parliez de, on interdisait la reproduction, etc. On pouvait faire les choses sous le manteau parce que,
oui, parfois, ça, bien sûr.
Donc, aujourd'hui, on peut plus le faire puisqu'on peut faire des contrôles de filiation. Et donc, dans les années 80, on s'est intéressé à la reproduction. Et grâce à un monsieur très important dans l'histoire des haras nationaux, qui s'appelle Monsieur Palmer, qui est un ingénieur qui a développé et mis au point les techniques d'insémination artificielle. Oui. Elles existaient bien un peu, mais en les normalisant pour les mettre sur le terrain. Donc on a développé, surtout après, en vue de ces travaux, dans la fin des années 80, on a développé des centres d'insémination artificielle sur toute la France, avec des centres de production de semences, comme il y a aujourd'hui encore à Rodez.
C'est cela. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas encore si longtemps, quand une jument était inséminée, il n'y avait pas une analyse biologique de savoir si ça avait marché ou pas. Donc généralement, on attendait bêtement un retour de chaleur éventuel avant de recommencer la manip.
D'où le travail qui faisait appel à des vrais professionnels qui existent dans les haras nationaux pour surveiller les juments toute la saison. Pour en revenir à Monsieur Palmer, donc il y a l'insémination, c'est lui qui a développé l'insémination en sperme congelé, qui a mis au point une technique qu'on n'aurait jamais cru. Il a vraiment bousculé beaucoup de préjugés là-dessus. L'échographie chez les juments. qui aujourd'hui est pratiqué de façon courante dans le monde entier, mais c'était lui qui était le précurseur. Les haras nationaux ont permis de diffuser cette technique.
Donc c'est ça aussi la réactivité des haras nationaux, c'est que bon, cette technique arrive et très rapidement est intégrée par les haras, quoi.
Voilà, donc elle est intégrée pour diverses raisons, pour diffuser la génétique d'une part, puis éviter les maladies transmissibles.
Les maladies transmissibles.
Éviter le déplacement des chevaux. Donc il y avait plein de raisons pour le faire.
Et puis aussi, effectivement, une monte est toujours, en naturel, est toujours un petit peu dangereuse aussi pour les talons, en fait. Oui. C'est pas tellement pour la jument, mais c'est pour
préserver les talons. Oui.
Pour préserver les talons. Parce que,
oui, mais il y a peut-être une préparation aussi à l'acte, parce que ça aussi, on ne garde pas des juments comme ça. Et ça, c'est l'exemple d'un cheval que vous avez peut-être tous connu, qui s'appelait Madoua. Et pour le faire saillir, celui-là, c'était quelque chose. Il fallait mettre de la musique, il fallait que la couleur de la jument, que la couleur de la jument lui plaise.
Eh oui, monsieur Bonnet, et que dire de la production de mulets qui a été quelque chose d'important dans l'Aveyron. Donc, faire saillir un âne sur une jument, c'est très certainement aussi très...
Ça, c'est... Oui, c'est... Il faut vraiment mettre...
Il fallait la bonne carotte.
En effet, oui.
En quelque sorte, Jean-Claude, en quelque sorte.
Donc, il y a une préparation à l'acte quand même, hein.
Comme toujours, Jean-Yves.
Donc tout doit être fait tranquillement et gentiment. Voilà, c'est cela.
Tu m'avais pas dit que pour protéger les talons, il y avait un premier cheval qui était présenté à la jument pour voir si elle l'acceptait ou pas.
Un souffleur, on appelle ça un souffleur. Oui, c'est ça. Voilà.
Ça, c'est, alors là, je commençais à chauffer un peu la jument, commençais à se préparer, puis quand elle était prête, alors là. Et qui se posait.
Ça, pour l'animal, ça devait être absolument épouvantable. Hein. Oui, ça il faisait tout le boulot, il risquait les coups. Et puis,
C'est
une question de tempérament.
Il y a des souffleurs qui se complaisaient très bien à faire ce travail.
Ah oui, vous en avez vu des...
Bien sûr.
D'accord.
Et d'autres, pas du tout, mais ceux-là, on les enlève du métier. Donc, oui, c'est un métier, et il y avait des étalons souffleurs qu'on a conservés 20 ans dans les écuries, qui faisaient très très bien le métier, qui n'en souffraient pas du tout.
Voilà, bon, c'est quand même un petit peu rassurant. Alors, je vois qu'on arrive au terme de l'émission, donc c'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins d'une histoire fabuleuse. L'histoire de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner encore.
Non pour s'en servir, mais pour le
servir.
Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9 et de CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles.
À la semaine prochaine et un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Chevaliers, alliance et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur toi. Hey, hey! Et ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Millau, les Vézous, Saint-Viest, milieu du Seine.
patrie de Béranger de l'Andorre, capitale du roi Hercule Rhodes.